Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose la suite de mon adaptation de L'Amant, roman de Marguerite Duras, paru en 1984. 15 ans et demi. La chose se sait très vite dans le poste de Sadek. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. La mère n'a aucun sens de rien, ni celui de la façon d'élever une petite fille. La pauvre enfant! Ne croyez pas, le chapeau n'est pas innocent, ni ce rouge à lèvres. Tout ça signifie quelque chose. Ce n'est pas innocent, ça veut dire, c'est pour attirer les regards, l'argent. Les frères, des voyous. On dit que c'est un Chinois, le fils du milliardaire, la villa du Mékong en céramique bleue. Même lui, au lieu d'en être honoré, il n'en veut pas pour son fils, famille de voyous blancs. La dame, on l'appelait. Elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinlong. Pendant un an, on ne l'avait pas vu à Vinlong, à cause de ce jeune homme, administrateur adjoint à Savannakhet. Ils ne pouvaient plus s'aimer. Alors il s'était tué d'un coup de revolver. L'histoire est parvenue jusqu'au nouveau poste de Vinlong. Le jour de son départ de Savannakhet pour Vinlong, une balle dans le cœur, sur la grande place du poste, dans le plein soleil. À cause de ses petites filles et de son mari nommé à Vinlong, elle lui avait dit que cela devait cesser. Cela se passe dans le quartier malfamé de Cholen, chaque soir. Chaque soir, cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale chinois millionnaire. Elle est aussi au lycée, où sont les petites filles blanches, les petites sportives blanches qui apprennent le crawl dans la piscine du club sportif. Un jour, ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de l'institutrice de Sadek. À la récréation, elle regarde vers la rue, toute seule, adossée à un pilier du préau. Elle ne dit rien de ça à sa mère. Elle continue à venir en classe dans la limousine noire du chinois de Cholen. Elle la regarde partir. Il n'y aura aucune exception, aucune ne lui adressera plus la parole. Cet isolement fait se lever le plus pur souvenir de la dame de Vinlong. Elle venait à ce moment-là d'avoir 38 ans, et 10 ans alors l'enfant, et puis maintenant 16 ans tandis qu'elle se souvient. La dame est sur la terrasse de sa chambre, elle regarde les avenues le long du Mékong. Je la vois quand je viens du catéchisme avec mon petit frère. La chambre est au centre d'un grand palais à terrasse couverte. Le palais est au centre du parc de lauriers roses et de palmes. La même différence sépare la dame et la jeune fille au chapeau plat des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des fleuves, de même elles sont isolées toutes les deux, seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. Toutes deux au discrédit voué du fait de la nature de ce corps qu'elles ont, caressé par des amants, baisé par leur bouche, livré à l'infamie d'une jouissance à en mourir, disent-elles, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants sans amour. C'est de cela qu'il est question, de cette humeur à mourir. Cela s'échappe d'elles, de leur chambre, cette mort si forte qu'elle en connaît le fait dans la ville entière, les postes de la brousse, les chefs-lieux, les réceptions, les bals ralentis des administrations générales. La dame vient justement de reprendre ses réceptions officielles. Elle croit que c'est fait, que le jeune homme de Savannakhet est entré dans l'oubli. La dame a donc repris ses soirées auxquelles elle est tenue pour que se voir puissent quand même les gens, de temps en temps, et de temps en temps aussi, sortir de la solitude effroyable dans laquelle se tiennent les postes de la brousse, perdus dans les étendues quadrilatères du riz, de la peur, de la folie, des fièvres, de l'oubli. Le soir, à la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d'insolence et d'enfance, les mêmes souliers lamés, et elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois. Il la lavera sous la douche, longuement, comme chaque soir elle faisait chez sa mère, avec l'eau fraîche d'une jarre qu'il garde pour elle, et puis il la portera mouillée sur le lit, il mettra le ventilateur, et il l'embrassera de plus en plus partout et elle demandera toujours encore et encore. Et après, elle rentrera à la pension et personne pour la punir, la battre, la défigurer, l'insulter. Ma mère a dit à la directrice de la pension « Ça ne fait rien, tout ça c'est sans importance. Vous avez vu ces petites robes usées, ce chapeau rose et ses souliers en or, comme cela lui va bien ?» La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants. Et alors son charme est encore plus grand. Les jeunes surveillantes de la pension écoutent la mère passionnément. « Tous, dit la mère, ils tournent autour d'elle, tous les hommes du poste, mariés ou non. Ils tournent autour de ça, ils veulent de cette petite, de cette chose-là, pas tellement définie encore, regardez, encore une enfant. » « Déshonorée, disent les gens. Et moi je dis, comment ferait l'innocence pour se déshonorer ?» La mère parle. Elle parle de la prostitution éclatante et elle rit du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l'enfant de la traversée du fleuve. Et elle rit de cette chose irrésistible ici, dans les colonies françaises. « Je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cette jeune enfant qui était jusque-là cachée dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et se commet dans la ville » au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire chinoise, diamant au doigt, comme une jeune banquière, et elle pleure. Quand elle a vu le diamant, elle a dit d'une petite voix « Ça me rappelle un petit solitaire que j'ai eu aux fiançailles avec mon premier mari. » Je dis « Monsieur Obscur ?» On rit. « C'était son nom, dit-elle, c'est pourtant vrai. » Nous nous sommes regardés longuement, et puis, elle a eu un sourire très doux, légèrement moqueur, empreint d'une connaissance si profonde de ses enfants et de ce qui les attendrait plus tard, que j'ai failli lui parler de Cholène. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Elle a attendu longtemps avant de me parler encore, puis elle l'a fait avec beaucoup d'amour. Tu sais que c'est fini ? Que tu ne pourras jamais plus te marier ici, à la colonie ? Je hausse les épaules, je ris. Je dis, je peux me marier partout quand je veux. Ma mère fait signe que non. Non. Elle dit, ici tout se sait. Ici tu ne pourras plus. Elle me regarde et elle dit les choses inoubliables. Tu leur plais ? Je réponds, c'est ça, je leur plais quand même. C'est là qu'elle dit, tu leur plais aussi à cause de ce que tu es, toi. Elle me demande encore, c'est seulement pour l'argent que tu le vois. J'hésite et puis je dis que c'est seulement pour l'argent. Elle me regarde encore longtemps. Elle ne me croit pas. Elle dit « Je ne te ressemblais pas. J'ai eu plus de mal que toi pour les études. Et moi, j'étais très sérieuse. Je l'ai été trop longtemps, trop tard. J'ai perdu le goût de mon plaisir. » C'était un jour de vacances à Sadec. Elle se reposait sur un rocking chair, les pieds sur une chaise. Elle avait fait un courant d'air entre les portes du salon et de la salle à manger. Elle était paisible, pas méchante. Tout à coup, elle avait aperçu sa petite. Elle avait eu envie de lui parler. On n'était pas loin de la fin, de l'abandon des terres du barrage, pas loin du départ pour la France. Je la regardais s'endormir. De temps en temps, ma mère décrète « Demain, on va chez le photographe. » Elle se plaint du prix, mais elle fait quand même les frais des photos de famille. Les photos, on les regarde, on ne se regarde pas, mais on regarde les photographies, chacune séparément, sans un mot de commentaire, mais on les regarde, on se voit. On voit les autres membres de la famille, un par un, ou rassemblés. On se revoit quand on était très petit sur les anciennes photos, et on se regarde sur les photos récentes. La séparation a encore grandi entre nous. Une fois regardées, les photos sont rangées avec le linge dans les armoires. Ma mère nous fait photographier pour pouvoir nous voir, voir si nous grandissons normalement. Elle nous regarde longuement comme d'autres mères, d'autres enfants. Elle compare les photos entre elles. Elle parle de la croissance de chacun. Personne ne lui répond. Ma mère ne fait photographier que ses enfants, jamais rien d'autre. Je n'ai pas de photographie de Vinlong, aucune, du jardin, du fleuve, des avenues droites bordées d'états mariniers, de la conquête française, aucune, de la maison, de nos chambres, d'asile blanchi à la chaux. Aucune image de ces endroits incroyables, toujours provisoires, au-delà de toute laideur, à fuir, dans lesquels ma mère campait en attendant, disait-elle, de s'installer vraiment, mais en France, dans ces régions dont elle a parlé toute sa vie et qui se situaient, selon son humeur, son âge, sa tristesse, entre le Pas-de-Calais et l'Entre-deux-Mers. Lorsqu'elle s'arrêtera pour toujours, qu'elle s'installera dans la Loire, sa chambre sera la redite de celle de Sadek, terrible. Elle aura oublié. Elle ne faisait jamais de photos de lieux, de paysages, rien que de nous, ses enfants, et la plupart du temps, elle nous groupait pour que la photo coûte moins cher. Les quelques photos d'amateurs qui ont été prises de nous l'ont été par les amis de ma mère, des collègues nouveaux arrivant à la colonie qui prenaient des vues du paysage équatorial, cocotiers et coulis, pour envoyer à leur famille. Mystérieusement, ma mère montre les photographies de ses enfants à sa famille pendant ses congés. Nous ne voulons pas aller dans cette famille. Mes frères ne l'ont jamais connue. Moi, la plus petite, d'abord elle m'y traînait. Et puis ensuite je n'y suis plus allée, parce que mes tantes, à cause de ma conduite scandaleuse, ne voulaient plus que leur fille me voie. Alors il ne reste à ma mère que les photographies à montrer. Alors ma mère les montre, logiquement, raisonnablement. Elle montre à ses cousines germaines les enfants qu'elle a. Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe, elle y est allée seule. Elle s'est fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et ses deux bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade embouti d'or. Sur la photo, elle est bien coiffée, pas un pli, une image. Les indigènes aisés allaient eux aussi chez le photographe, une fois par existence, quand ils voyaient que la mort approchait. Les photos étaient grandes. Elles étaient toutes de même format, elles étaient encadrées dans des beaux cadres dorés et accrochées près de l'autel des ancêtres.
Thank you.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Il n'en parle plus jamais, c'est une chose entendue qu'il ne tentera plus rien auprès de son père pour l'épouser. Que le père n'aura aucune pitié pour son fils, il n'en a pour personne. De tous les émigrés chinois qui tiennent le commerce du poste entre leurs mains, celui des terrasses bleues est le plus terrible, le plus riche, celui dont les biens s'étendent le plus loin, au-delà de Sadek, jusqu'à Shelun, la capitale chinoise de l'Indochine française. L'homme de Shelun sait que la décision de son père et celle de l'enfant sont les mêmes et qu'elles sont sans appel. À un moindre degré, il commence à entendre que le départ qui le séparera d'elle est la chance de leur histoire, que celle-ci n'est pas de la sorte qu'il faut pour être marié, qu'elle se sauverait de tout mariage, qu'il faudra l'abandonner, l'oublier, la redonner aux Blancs, à ses frères. Depuis qu'il était fou de son corps, la petite fille ne souffrait plus de la voir, de sa minceur et de même, étrangement, sa mère ne s'en inquiétait plus comme elle faisait auparavant, tout comme si elle avait découvert, elle aussi, que ce corps était finalement plausible, acceptable, autant qu'un autre. Lui, l'amant de Shelun, il croit que la croissance de la petite Blanche a pâti de la chaleur trop forte. Lui aussi, il est né et il a grandi dans cette chaleur. Il se découvre alors avoir avec elle cette parenté-là. Il dit que toutes ces années passées ici, à cette intolérable latitude, ont fait qu'elle est devenue une jeune fille de ce pays de l'Indochine, qu'elle a la finesse de leurs poignets, leurs cheveux drus, dont on dirait qu'ils ont pris pour eux toute la force, longs comme les leurs, et surtout cette peau de tout le corps, qui vient de l'eau de la pluie qu'on garde ici pour le bain des femmes, des enfants. Il dit que les femmes de France, à côté de celles-ci, ont la peau du corps dure, presque rêche. Il dit encore que la nourriture pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, y est aussi pour quelque chose. Et aussi les cotonnades et les soies dont les vêtements sont faits, toujours larges ces vêtements, qui laissent le corps loin d'eux, libre, nu. L'amant de Shelun s'est fait à l'adolescence de la petite Blanche jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à elle, chaque soir, a engagé son temps, sa vie. Ne lui parle presque plus, peut-être croit-il qu'elle ne comprendrait plus ce qu'il lui dirait d'elle, de cet amour qu'il ne connaissait pas encore et dont il ne sait rien dire. Peut-être découvre-t-il qu'ils ne se sont jamais encore parlé, sauf lorsqu'il s'appelle dans les cris de la chambre le soir. Oui, je crois qu'il ne savait pas, il découvre qu'il ne savait pas. Il la regarde. Les yeux fermés, il la regarde encore. Il respire son visage, il respire l'enfant, les yeux fermés. Il respire sa respiration, cet air chaud qui ressort d'elle. Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps. Celui-ci n'est pas comme les autres, il n'est pas fini. Dans la chambre, il grandit encore, il est encore sans forme arrêtée, à tout instant en train de se faire. Il n'est pas seulement là où il le voit. Il est ailleurs aussi, il s'étend au-delà de la vue, vers le jeu, la mort. Il est souple, il part tout entier dans la jouissance comme s'il était grand en âge. Il est sans malice, d'une intelligence effrayante. Je regardais ce qu'il faisait de moi comme il se servait de moi et je n'avais jamais pensé qu'on pouvait le faire de la sorte. Il allait au-delà de mon espérance et conformément à la destinée de mon corps. Ainsi j'étais devenue son enfant, il était devenu autre chose aussi pour moi. Je commençais à reconnaître la douceur inexprimable de sa peau, de son sexe, au-delà de lui-même. L'ombre d'un autre homme aussi devait passer par la chambre, celle d'un jeune assassin, mais je ne le savais pas encore, rien n'en apparaissait encore à mes yeux. Celle d'un jeune chasseur aussi devait passer par la chambre, mais pour celle-là, oui, je le savais. Quelquefois, il était présent dans la jouissance et je le lui disais à l'amant de Shelun. Je lui parlais de son corps et de son sexe aussi, de son ineffable douceur, de son courage dans la forêt et sur les rivières aux embouchures des panthères noires. Tout allait à son désir et le faisait me prendre. J'étais devenu son enfant. C'était avec son enfant qu'il faisait l'amour chaque soir. Et parfois il prend peur, tout à coup il s'inquiète de sa santé, comme s'il découvrait qu'elle était mortelle et que l'idée le traversait qu'il pouvait la perdre. Qu'elle soit si mince tout à coup, et il prend peur aussi quelquefois, brutalement. Et de ce mal de tête aussi, qui souvent la fait mourante, livide, immobile, un bandeau humide sur les yeux. Et de ce dégoût aussi qu'elle a quelquefois de la vie quand ça la prend, qu'elle pense à sa mère, et que subitement elle crie et pleure de colère à l'idée de ne pas pouvoir changer les choses, faire la mère heureuse avant qu'elle meure, tuer ceux qui ont fait ce mal. Le visage contre le sien, il prend ses pleurs, il l'écrase contre lui, fou de désir, de ses larmes, de sa colère. Il la prend comme il prendrait son enfant. Il prendrait son enfant d'eux-mêmes. Il joue avec le corps de son enfant et le retourne. Il s'en recouvre le visage, la bouche, les yeux. Et elle continue à s'abandonner dans la direction exacte qu'il a prise quand il a commencé à jouer. Et d'un seul coup, c'est elle qui le supplie. Elle ne dit pas de quoi. Et lui, il lui crie de se taire. Il crie qu'il ne veut plus d'elle, qu'il ne veut plus jouir d'elle. Et les voici de nouveau pris entre eux, verrouillés entre eux dans l'épouvante. Et voici que cette épouvante se défait encore, qui lui cède encore dans les larmes, le désespoir, le bonheur. Il se taise tout au long du soir. Dans l'auto noir qui la ramène à la pension, elle met sa tête contre son épaule. Il l'enlace. Il lui dit que c'est bien que le bateau de France vienne bientôt et l'emmène et les sépare. Il se taise pendant le trajet. Quelquefois, il demande au chauffeur d'aller le long du fleuve faire un tour. Elle s'endort, exténuée contre lui. Il la réveille avec des baisers. C'était « L'amant », roman de Marguerite Duras, publié aux éditions de Minuit. Lors de la pause musicale, nous avons écouté le nocturne numéro 1 en si bémol mineur, opus 9 de Chopin, interprété par Brigitte Engerer. Cette émission était produite par Frédéric Guillon. Je vous propose de me retrouver samedi prochain pour la suite de ce roman dans vos chapitres. Et je vous souhaite une bonne semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.